Richard Lesclide, Contes bleus et roses pour les petits. Les maladresses de Catherine. Frédéric avait épousé Catherine, qui était une belle fille, grande et vigoureuse, mais d'une extrême naïveté. Ses distractions et ses rêveries causaient à son mari une foule de désagréments. Comme ils étaient mariés depuis peu, il espérait la corriger, car elle montrait une bonne volonté et une docilité exemplaires. Malheureusement, elle était d'une telle gaucherie qu'avec les meilleures intentions du monde, elle ne faisait que des bêtises. Un jour, Frédéric lui dit en se réveillant « Vous savez, ma chère femme, que je vais travailler au champ aujourd'hui. La journée sera rude et je reviendrai fatigué et de grand appétit. Apprêtez-moi quelques mets bien assaisonnés et joignez-y une pinte de bière fraîche. » « Tout cela n'est pas difficile, répondit-elle. Je sais faire la cuisine et vous pouvez compter que tout sera prêt à votre retour. » « N'allez pas, ajouta-t-il, chercher midi à 14 heures. Ne vous occupez que de ce que je vous demande. »
« C'est entendu, mon cher mari. Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. »
La journée se passa assez bien. Lorsque Catherine vit baisser le soleil, elle pensa qu'il était temps de préparer le souper. Elle avait en réserve une côtelette qu'elle arrangea et qu'elle mit sur le feu pour la faire griller. Elle s'assit au coin de la cheminée, avec une fourchette pour la retourner, ce qu'elle fit fort à propos.
« Maintenant, dit-elle, la côtelette est à peu près cuite. J'ai le temps d'aller à la cave chercher de la bière au tonneau. »
Elle descendit avec une cruche bien propre et la plaça sous le robinet qu'elle ouvrit. Elle regardait le liquide couler et la cruche se remplir, quand une idée subite la fit tressaillir. Elle songea qu'elle avait oublié d'enfermer le chat de la maison, qui, assis au coin du feu, avait surveillé comme elle la cuisson de la côtelette, peut-être avec un intérêt personnel. Elle remonta les escaliers 4 à 4, mais il était déjà trop tard. Le chat et la côtelette avaient disparu. Catherine tomba sur une chaise, prête à pleurer et maudissant la gourmandise de l'animal. Après réflexion, elle se décida à le poursuivre. Elle courut au grenier et fit 2 fois le tour de la maison. Mais elle ne put trouver le voleur.
« Il faut se résigner, dit-elle. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que Frédéric va m'accuser, tandis que le chat a fait tout le mal. »
Pendant ce temps, la bière coulait à flots et, la cruche une fois pleine, elle se répandit par toute la cave jusqu'à ce que le tonneau fût vide. Catherine, en piétinant dans la boue, pensa qu'elle avait oublié de fermer le robinet.
« Je ne pouvais pourtant pas laisser le chat avec la côtelette, » se dit-elle pour s'excuser. « Voilà de belles besognes. Que va dire Frédéric en voyant la cave toute mouillée, lui qui aime tant la propreté ?»
Elle se souvint alors d'un grand sac de fleurs de farine que son mari avait récemment acheté.
« Voilà mon affaire, dit-elle. Quel bonheur que nous ayons cette farine. Elle va me servir à réparer le dégât. Non seulement elle boira la bière perdue, mais elle formera comme un beau tapis bien plus doux que le sable qu'on met ordinairement dans les caves. »
Elle jeta, en effet, sa farine à poignée sur le sol humide et se réjouit de l'étonnante blancheur du parquet. Quand elle eut fini, elle envoya le sac vide contre la cruche de bière, qu'elle renversa du coup.
« C'est avoir du malheur, dit-elle, mais il en restait si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. »
Elle en était là de ses discours quand Frédéric arriva et lui demanda d'un air de bonne humeur.
« Ma femme, qu'y a-t-il à souper ?»«
Ah, répondit-elle, vous allez peut-être me gronder, quoique j'ai tout fait pour le mieux. J'ai d'abord fait cuire une côtelette, mais pendant que j'étais allée chercher de la bière, le chat l'a emportée. Pendant que je courais après le chat, la bière s'est répandue. Heureusement que j'ai pu nettoyer la cave et la sécher avec cette farine qui nous embarrassait et que vous aviez achetée récemment.
Ah ! S'écria Frédéric, quelle femme habile vous êtes ! Pourquoi quittiez-vous la côtelette ? Pourquoi ne fermiez-vous pas le robinet ? Pourquoi avez-vous jeté la farine ?
Mon Dieu ! Répondit-elle, je ne savais pas que cela fût mal, et vous auriez dû me le dire.
Quelques jours après, Frédéric revint de la ville où il était allé recueillir une petite succession. Il jugea inutile de parler à Catherine de leur nouvelle fortune, mais pour éviter une étourderie quelconque de sa part, il lui montra les pièces d'or qu'il rapportait.
« Vous voyez ces boutons jaunes ? » lui dit-il. « Je vais les mettre dans une boîte et je les enterrerai dans notre jardin. J'ai pour agir ainsi des raisons que je vous expliquerai plus tard. Promettez-moi de n'en jamais approcher et de n'y toucher sous aucun prétexte. »
« Très volontiers, répondit-elle, et vous pouvez compter sur moi. »
Le lendemain, une troupe de bohémiens traversa le pays et fit 100 tours d'agilité sur la place publique. C'étaient de mauvaises gens, vivant de rapides et de fourberies, qui faisaient des dupes partout où ils passaient. Catherine se joignit au commère de l'endroit et voulut se faire dire la bonne aventure. Comme cela se fait toujours, la vieille femme qu'elle consultait lui prédit des prospérités et des richesses. Elle ajouta même qu'un trésor devait être caché dans sa maison.
« J'en doute, répondit Catherine, à moins que vous ne vouliez parler de quelques boutons jaunes que mon mari a enterrés avec soin dans le fond de notre jardin. »
« Précisément, dit la vieille, et si vous me montriez ces boutons jaunes, je vous en dirai bien davantage. »
« J'ai juré de n'y pas toucher, répondit la jeune femme, et quand je promets quelque chose, je n'y manque jamais. Mais vous n'avez qu'à creuser vous-même au pied du grand poirier, et vous trouverez la boîte qui renferme les boutons. »
La vieille ne se le fit pas dire deux fois. Quand elle eut vu le trésor de Frédéric, elle s'en empara sans scrupule et disparut, malgré les observations de Catherine, qui craignait d'avoir trop parlé. Quand Frédéric revint de l'ouvrage, il trouva à sa femme un air embarrassé qui l'inquiéta.
« Catherine, lui dit-il, qu'avez-vous fait aujourd'hui ?»«
Tenez, répondit-elle, je vais vous dire la vérité. Il est venu une troupe de bohémiens à qui j'ai parlé de vos boutons jaunes et qui les ont emportés. Mais je ne les ai pas touchés moi-même, je ne m'en suis pas même approchée ainsi que vous me l'aviez recommandé. »
« Hélas ! S'écria Frédéric, vous nous avez ruinés. Ces boutons composaient toute notre fortune. Comment les avez-vous livrés à ces étrangers ?»«
Je ne savais pas que cela fût mal, répondit-elle, et vous auriez dû me le dire. »
Pourtant, quand elle vit son mari désespéré et plongé dans la tristesse, elle comprit sa faute, et comme elle l'aimait beaucoup, elle chercha à le consoler.
« Mettons-nous en route, dit-elle, et nous attraperons peut-être les voleurs. »
« Soit, répondit Frédéric, nous les serrons du moins, et nous rentrerons dans notre bien si Dieu nous protège. Mais la course peut être longue. Emportez avec vous un panier et des provisions pour que nous puissions manger en chemin. »
« C'est entendu, mon ami, vous pouvez partir tout de suite, je vous rattraperai bientôt. »
Pendant que Frédéric s'éloignait rapidement, elle mit dans un panier du beurre et 2 fromages.
« Pour du pain, dit-elle, on en trouve partout. »
Elle pressa d'abord le pas pour rejoindre son mari. Mais, se sentant fatiguée, elle renonça à marcher aussi vite.
« Je serai bien bête de me presser, dit-elle, car plus je resterai en arrière et plus je me trouverai en avance quand nous reviendrons à la maison. »
En cheminant à loisir, elle considérait le paysage et faisait des réflexions. Elle suivait une longue allée plantée d'arbres des 2 côtés, mais si étroite que les charrettes qui y passaient avaient enlevé l'écorce des chênes qui l'ombrageaient. Elle s'apitoya sur le sort de ces beaux arbres, blessés si cruellement.
« J'ai vu, dit-elle, Frédéric graisser les blessures des arbustes qu'il taille dans notre jardin. Il emploie à cela une sorte de terre glaise.
je suis sûre que le beurre frais n'est pas moins salutaire pour les chaînes entamées. » Elle se laissa aller aux suggestions de son bon cœur et frotta de beurre les arbres de la route pour guérir le mal que leur avaient fait les roues des charrettes. Pendant qu'elle faisait cette bonne œuvre, son panier, qu'elle balançait négligemment, laissa choir un des fromages. Il roula sur le versant d'un fossé très profond où il disparut. Catherine s'en aperçut un peu tard et chercha vainement où il pouvait être tombé.
« Je saurai bien le retrouver, » dit-elle. « Je n'ai qu'à jeter son camarade. Il prendra sûrement le même chemin et je les rattraperai tous les deux à la fois. »
Elle lança donc le second fromage en le suivant des yeux. Il roula très rapidement et s'enfonça dans une flaque d'eau bourbeuse.
« En vérité, dit-elle, j'ai du malheur aujourd'hui. Voilà nos fromages dans l'eau. Il est inutile que je les repêche, car je ne crois pas que Frédéric aime le fromage mouillé. Nous serons d'ailleurs toujours à temps de revenir les chercher. »
En devisant de la sorte, elle poursuivit sa route et finit par rencontrer son mari, qui croyait ne jamais la voir arriver et qui s'était assis pour l'attendre.
« Enfin, lui dit-il, je commençais à désespérer de vous. Je meurs de faim. Donnez-moi le panier, je vous prie. »
Elle ne sut que répondre et lui montra le panier vide. Frédéric voulut se fâcher, mais elle lui raconta les incidents de sa promenade et chercha à l'attendrir sur le sort des arbres meurtris qu'elle avait si bien beurrés.
« Et les fromages ? » demanda-t-il. « Ils sont dans le fossé, mon ami. L'eau qui les couvre est si malpropre que j'ai pensé que vous ne vous en soucieriez pas.
Donnez-moi au moins un morceau de pain. »
« Rien de plus facile, nous n'avons qu'à en prendre chez le plus prochain boulanger. »« Bon Dieu, dit-il en levant les bras au ciel, quelle femme inintelligente! Se peut-il que vous ne fassiez que des sottises ?»«
Hélas, répondit-elle en pleurant, je ne savais pas que cela fût mal, et vous auriez dû me le dire. »
Au bout d'un moment, Frédéric s'écria tout à coup, « J'espère bien qu'avant de partir, vous avez fermé notre porte. »
« Ma foi, non, répondit-elle, vous ne m'en aviez pas dit un mot. »
« Eh bien, retournez à la maison et souvenez-vous qu'une porte n'est jamais trop bien gardée. Par la même occasion, vous apporterez de nouvelles provisions. » Catherine, qui était fort obéissante, partit aussitôt pour retourner chez elle.
« Je veux faire une surprise à ce pauvre Frédéric, se dit-elle, car je le crois un peu mécontent. Je vais lui apporter un sac de belles noix et même un flacon de ce vin dont il boit volontiers le dimanche. »
Arrivée à la maison, elle prit le vin et les noix et se disposait à revenir après avoir fermé la porte, quand, en donnant un dernier tour de clé, une idée lui vint à l'esprit.
« Certes, dit-elle, la porte est solide et bien verrouillée, mais elle ne sera jamais mieux gardée que si je la prends avec moi. Elle est un peu lourde, n'importe, mon mari verra au moins que je tiens à le satisfaire. »
En disant ces mots, elle enleva la porte des gonds et la chargea sur ses épaules.
Du plus loin qu'elle vit Frédéric, elle lui cria, « Voilà la porte, mon ami, vous pourrez maintenant veiller sur elle aussi attentivement qu'il vous plaira. »
« Eh quoi ? » dit Frédéric en s'arrachant les cheveux. « Je vous envoie pour fermer la maison et vous en ôter la porte pour que tout le monde y puisse entrer de son gré. »«
Mon Dieu, dit-elle, je n'y ai pas pensé et je croyais bien faire. Si quelqu'un entre d'ailleurs, il sera bien attrapé puisqu'il ne trouvera personne. »
« Et les voleurs ? Lui dit son mari.
« Eh bien, répondit-elle, puisque nous courons après eux, vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas être chez nous. »
Frédéric comprit qu'il perdait son temps à raisonner et il se borna à dire « Puisque vous avez enlevé la porte, vous la garderez sur vos épaules jusqu'à ce que nous soyons de retour. »
« Je veux bien, dit-elle, mais je ne peux pourtant pas tout porter. Si vous le permettez, j'attacherai les noix et la bouteille à la serrure. Elle est solide et il vaut mieux qu'elle se fatigue que moi. »
Frédéric ne fit aucune objection à ce sujet
et ils se remirent en route sans songer à manger. Toutes ces contrariétés leur avaient ôté l'appétit. Ils finirent par arriver dans un grand bois, et comme la nuit tombait, ils résolurent de coucher sur un arbre, car on assurait qu'il y avait des loups aux environs. Ils grimpèrent donc aux branches d'un vieux chêne assez péniblement. La porte, que Catherine n'avait pas voulu quitter, les gênait beaucoup. Enfin, ils s'installèrent tant bien que mal et attendirent le sommeil. Ils n'étaient pas perchés depuis plus d'une heure quand ils entendirent des pas dans le taillis et qu'ils aperçurent plusieurs figures rébarbatives. C'étaient précisément les bohémiens qu'ils cherchaient. Leur troupe s'établit au pied de l'arbre où ils se trouvaient, et à la lueur du feu qu'on alluma, Catherine reconnut la vieille qui avait déterré les boutons jaunes. Frédéric ne savait quel parti prendre. Les voleurs étaient trop nombreux pour qu'il osât les attaquer. Ils commencèrent par organiser leur cuisine et firent rôtir des poules qu'ils avaient dérobées. Puis, ils étalèrent leur butin, et Frédéric revit avec joie son or qu'il espérait bien rattraper. Cela le transporta tellement qu'il donna une secousse à l'arbre, ce qui fit pleuvoir des glands sur la tête des bandits. L'un d'eux leva la tête et se contenta de dire « Voilà le vent qui se lève, nous pourrons bien avoir de la pluie avant demain. » Cependant, Catherine, qui avait toujours la porte sur le cou, commençait à être rompue de fatigue. Elle s'imagina que c'était les noix qui la rendaient si lourde. « Car, disait-elle, elle ne pesait pas moitié quand je l'ai prise. Frédéric, il faut que je jette les noix. »« N'en faites rien, dit-il, elle nous ferait découvrir. » »« Tant pis, mon ami, les voici qui s'en vont. » Les noix rendirent un bruit sec en cascadant à travers les branches. La vieille en reçut une sur le nez et s'écria « Dieu me pardonne, il grêle !» Au bout d'un moment, Catherine trouva la porte plus lourde que jamais. « Ce n'était pas les noix, dit-elle, c'est le vin qui m'éreinte ainsi. Il faut, ami, que je le répande. »« Ne vous en avisez pas, dit son mari, on nous reconnaîtrait de suite. »« Ma foi, répondit-elle, vous l'avez dit trop tard. » La bouteille renversée jetait des flots de vin sur la tête d'un vieux bohémien qui en fut inondé, mais il ne fit que s'essuyer le front en disant « Voilà la rosée qui tombe !» Catherine pensa que c'était la porte elle-même qui lui brisait les reins. Elle voulut se dégager et dit à Frédéric « Puis-je leur envoyer la porte à présent » « Gardez-vous-en bien, lui dit-il, nous serions perdus. » « La voici pourtant à bas, répondit Catherine. Au même instant, la porte dégringola et tomba violemment sur la tête des bohémiens qui se prirent à crier au meurtre et à se sauver de tous côtés, croyant être atteints par le tonnerre lui-même. Frédéric et Catherine descendirent en toute hâte, s'emparèrent de leur or et se sauvèrent chez eux. Quand les voleurs revinrent, ils se trouvèrent dévalisés, mais ils ne s'en mirent pas fort en peine, comptant se rattraper à la foire prochaine.